À leur découverte, tous ces appendices étaient étroitement repliés autour du pseudo-cou et de la fin du torse, comme ceux de l'autre extrémité. Encore impossible de dire s'il appartient au règne animal ou végétal, mais la balance penche vers l'animal. Doit représenter une évolution incroyablement avancée des radiés, tout en conservant certains traits primitifs. Ressemblance indéniable avec les échinodermes, malgré certains éléments allant dans un sens opposé. Structure des ailes étonnante, considérant son habitat marin probable, mais peut servir lors de la nage. La symétrie évoque un végétal structuré de haut en bas et non de l'avant vers l'arrière comme chez un animal. Évolution d'une ancienneté fabuleuse, antérieure même au plus simple protozoaire archéen inconnu et défiant toute conjecture quant à son origine. Les spécimens complets présentent une ressemblance si surprenante avec certaines créatures des mythes archaïques qu'on en vient inévitablement à envisager leur existence ailleurs qu'en Antarctique. D'ailleurs, et Peabody ont lu le Necronomicon et vu les peintures cauchemardesques de Clark Ashton Smith reposant sur ce texte et me comprendront si je parle des êtres anciens censés avoir créé la vie sur Terre par jeu ou par erreur. Les érudits ont toujours pensé que leur conception dérive de très anciens invertébrés tropicaux, déformés au prisme d'une imagination morbide. Font aussi penser aux êtres du folklore préhistorique dont Wilmart nous a parlé, le culte de Cthulhu, etc. Un vaste champ d'études s'ouvre devant nous. Des peaux remontent probablement fin du Crétacé ou début de l'Éocène, à en juger par spécimens collectés. Énormes stalagmites formées au-dessus d'eux. Difficile travail pour les extraire, mais leur solidité a évité toute dégradation. État de préservation miraculeux, certainement action du calcaire. Aucun autre découvert pour l'instant, mais reprendrons recherche plus tard. Devons maintenant amener 14 grands spécimens au camp sans les chiens qui aboient furieusement et qu'on ne peut approcher. Avec 9 hommes, 3 pour garder les chiens, devrions pouvoir diriger les 3 traîneaux malgré vent furieux. Devons établir pont aérien avec Détroit McMurdo et commencer à cheminer fourniture. Mais avant tout repos, doit disséquer une de ces choses. Regrette absence d'un vrai laboratoire. Espère que d'ailleurs s'en veut d'avoir voulu m'empêcher de partir vers l'ouest. D'abord les plus hautes montagnes au monde et maintenant ça. Si ce n'est pas le point culminant de cette expédition, alors je ne sais pas ce que c'est. Avec ça, notre réputation est faite. Peabody, bravo, c'est votre foreuse qui a ouvert la caverne. L'Arkham veut-il bien répéter la description ?
Les mots me manqueraient pour décrire ce que Peabody et moi-même avons ressenti en recevant ce message, et nos compagnons partageaient notre enthousiasme. Mac Taigi, qui avait retranscrit à la hâte les points majeurs du récit au fur et à mesure qu'il sortait du récepteur, a rédigé à la main le rapport dans son intégralité dès la fin de la transmission. Tous appréciaient le caractère historique de cette découverte et j'ai envoyé un message de félicitations à Lake une fois que l'opérateur de l'Arkham lui eut répété la description comme il l'avait demandé. Et Sherman a suivi mon exemple depuis son propre poste au détroit de McMurdo, de même que le capitaine Douglas de l'Arkham. Plus tard, en tant que chef de l'expédition, j'ai ajouté quelques remarques que l'Arkham se chargerait de transmettre au monde extérieur. Bien sûr, dans l'enthousiasme général, prendre du repos était une idée absurde, et mon seul désir était de gagner le camp de Lake le plus vite possible. Mais à ma grande déception, une tempête se levait, rendant impossible tout voyage en avion. Mais une heure et demie plus tard, une nouvelle pointe d'enthousiasme m'a fait oublier ma déception. Lake nous envoyait d'autres messages, nous disant qu'il avait réussi à transporter les 14 spécimens jusqu'à son camp. Cela n'avait pas été facile, car ces choses étaient étonnamment lourdes, mais à 9, ils y étaient arrivés relativement vite. Maintenant, certains des hommes s'empressaient de bâtir un enclos de neige à bonne distance du camp, afin que les chiens puissent y être nourris tranquillement. Les spécimens avaient été disposés sur la neige dure près du camp, sauf un que Lake gardait pour sa tentative de dissection. Celle-ci s'est avérée plus difficile qu'il ne l'aurait cru, car malgré la chaleur dispensée par un radiateur à essence dans la tente qui servait de laboratoire, les tissus flexibles du spécimen, qu'il avait choisi volumineux et intact, n'avaient rien perdu de leur solidité. Lake se demandait comment effectuer les incisions requises sans user d'une violence qui risquait d'anéantir toutes les subtilités structurelles qu'il recherchait. Certes, il avait à sa disposition 7 spécimens encore plus parfaits, mais c'était trop peu pour qu'il puisse se permettre de les gaspiller en expériences hasardeuses, à moins que la caverne ne lui en fournisse d'autres plus tard en quantité illimitée. C'est pourquoi il avait préféré changer de spécimen et en choisir un autre qui, bien qu'ayant encore des restes des structures en étoile aux deux extrémités, était écrasé et partiellement ouvert le long de l'un des grands sillons du torse.